Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs, je vous souhaite un très agréable et très reposant sabbat. Au milieu des épreuves, beaucoup se demandent s'ils ont suffisamment de foi, ou bien ils ressentent l'impression que leur foi a tendance à faiblir. Notre monde, de son côté, semble organisé pour tester, pour saboter la foi, pour favoriser le doute. Alors, lorsque nous voyons notre foi faiblir, nous pourrions nous demander effectivement si elle va être capable de résister au final à cette agression sociale généralisée. Ma foi, votre foi, sont-elles en danger? Peuvent-elles résister? La réponse est oui, bien entendu. Oui, elles peuvent résister, nos fois, elles sont, si elles sont vivantes. Car la Bible décrit aussi bien la foi vivante que la foi morte. La foi vivante, elle, peut grandir, elle peut croître. Elle peut agir positivement dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Alors, avons-nous suffisamment de foi? Avons-nous la bonne sorte de foi? Que pouvons-nous faire pour avoir plus de cette foi vivante? Et puis, pouvons-nous vraiment produire ou cultiver la foi de par nous-mêmes? D'où vient la foi vivante selon la Bible? Et pourquoi nous est-il dit que la foi de Jésus en nous, la foi de Jésus en nous, est indispensable pour être sauvé et pour obtenir la vie éternelle? Pour commencer, nous devons bien comprendre ce qu'est la foi. L'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, nous donne précisément une définition biblique et explicite de la foi. Dans le chapitre 11, le chapitre de la foi précisément, Hébreux chapitre 11, verset 1, il nous est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi biblique repose donc sur les promesses sûres, les promesses immuables du Dieu fidèle. Il tient toujours ses promesses. Il est entièrement digne de confiance. La foi, eh bien, c'est reconnaître la fidélité de Dieu, et c'est croire en lui, évidemment, bien sûr. Il nous est dit aussi, au verset 6, un peu plus loin, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ne reste pas indifférent à ceux qui croient en lui, à ceux qui croient en son existence. Eh bien, nous croissons, nous grandissons dans la foi en faisant quoi? En étudiant la Bible, en écoutant la Bible, en la lisant et en allant au plus profond de ce qu'elle veut nous dire, en l'étudiant, en passant du temps, en découvrant ce que Dieu aussi, précisément dans la Bible, a fait de par le passé, tous ses actes, ses grands actes, et ce qu'il promet pour notre avenir et pour l'avenir en général. Cela exige également que nous recherchions Dieu, que nous cherchions Dieu avec zèle, avec le désir de nous efforcer de lui ressembler. C'est possible, c'est ce qu'il nous demande. Et l'apôtre Paul a écrit à propos des dons extraordinaires que Dieu a accordés à ceux qui suivent les traces de Jésus, et dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20, Galates 2, 20, il écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous ou pour moi. » Alors bien que certaines versions bibliques utilisent l'expression « la foi au Fils de Dieu » comme celle que je viens de lire dans la nouvelle édition de Genève, nous comprenons aussi que c'est parfois écrit « la foi du Fils de Dieu » dans certaines versions, comme par exemple dans trois Bibles francophones que je pourrais citer, la Bible Martin, la Grande Bible de Tours et la Bible Le Maître de Sacy. Donc trois Bibles, trois fois différentes, une Bible protestante, une Bible catholique et une Bible janséniste. Le jansénisme, c'était une doctrine catholique particulière, un courant séparatiste catholique particulier. Donc trois traductions officielles qui sont correctes, la foi du Fils de Dieu. La foi du Fils de Dieu. Cette traduction est correcte. Elle nous aide à reconnaître la source de la foi qui sauve, qui nous donne la vie éternelle. En effet, la semence de la foi est un bien, un don de Dieu. La preuve, Paul a écrit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, Éphésiens 2, 8, il écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Donc, la foi vient de Dieu. Et dit-il, précisément, « Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Il le dit explicitement. Alors, quand nous lisons le verset suivant, dans Éphésiens chapitre 2, verset 9, il est écrit « Ce n'est point par les œuvres, donc ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne se glorifie. » Alors, cette déclaration nous fait comprendre, et il est certain que par les œuvres, quelle que soit leur quantité, quelle que soit leur grandeur, nos œuvres ne peuvent pas nous faire gagner le pardon ou les dons de Dieu. Les œuvres proviennent, la foi, les dons de Dieu, le pardon de Dieu proviennent de la grâce de Dieu. Ils proviennent de sa miséricorde. Alors, cela signifie-t-il que les bonnes œuvres ne sont plus une part importante de la vie chrétienne? Eh bien non. Évidemment, c'est une part importante de la vie chrétienne. Et notez ce qu'il écrit au verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc Dieu a préparé de bonnes œuvres que nous devons pratiquer, ce n'est pas pour rien, nous devons le faire. Dieu travaille par l'intermédiaire des chrétiens et cela produit une vie pleine de bonnes œuvres. Jésus a souligné l'importance de rester connecté, relié avec Dieu. Nous devons rester connectés avec Dieu, nous devons porter du fruit, du bon fruit, et nous devons obéir à ses commandements. Il écrit dans Jean écrit dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, donc Jean chapitre 15 verset 5, Jean 15 5. Jésus déclare : Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Le sarment ne peut rien faire sans le cep. Et au verset 10, il écrit, il continue, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » L'apôtre Jacques a également insisté sur ce point, sur les œuvres, nous le savons. Il a clarifié notamment la relation étroite entre les œuvres et une foi vivante. Entre les œuvres et une foi vivante. Il écrit dans Jacques chapitre 2, verset 14 à 26, Jacques voulait dissiper tout malentendu concernant les œuvres. Chapitre 2, verset 14, « Mes frères, écrit-il, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc une foi vivante est une foi active. Nous montrons notre foi en Dieu et en son mode de vie en nous efforçant de vivre comme notre Dieu d'amour nous le montre dans la Bible et en suivant les lois et les sages principes qu'il nous enseigne dans sa parole. Comme nous venons de le voir dans l'épître de Jacques au chapitre 2, nous devons manifester notre foi non pas avec des paroles seulement, mais avec des actes bel et bien et principalement en prenant soin de ceux qui sont dans le besoin. Dans le chapitre précédent, Jacques avait également abordé l'importance de prendre ceux qui sont précisément vulnérables dans la société. Il y a plusieurs catégories de personnes qui sont plus fragiles. les veuves, par exemple, les femmes qui ont perdu leur mari. Leur mari était leur soutien physique dans la vie, leur soutien émotionnel. Ils ne sont plus là. Les orphelins, ceux qui ont perdu un père ou une mère, ils n'ont plus cette chance extraordinaire d'avoir encore un père qui leur montre le chemin de la sagesse, qui leur explique, qui leur rappelle cette boussole spirituelle fondamentale qu'est la parole de Dieu. Autant de vies qui ont besoin d'être protégées de façon prioritaire. Jacques dit au chapitre 1, verset 27, Jacques 1, 27, il précise justement que la religion pure et sans tache devant notre Père, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Autrement dit, chaque personne qui est plus faible, qui souffre, qui a des besoins qui ne sont pas couverts, il faut s'en occuper, il faut les visiter, il faut connaître leurs besoins et y répondre. Donc, deux principes fondamentaux ici. Premièrement, visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, autrement dit, ceux qui ont besoin d'être aidés par des actes, les soutenir, c'est cela la foi de vivante. Et puis deuxièmement, se préserver des souillures du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Se préserver des souillures du monde, rester propre, pur, c'est obéir à la loi de Dieu, obéir au commandement de Dieu, obéir à la loi d'amour et de bienveillance à l'égard de Dieu et à l'égard de notre prochain. Abraham a démontré la foi vivante, sa foi en obéissant à Dieu. Et Dieu lui a demandé de partir. Eh bien, qu'a fait Abraham? Il est parti, sans discuter. Il est parti pour se rendre là où Dieu lui demandait d'aller, tout en vivant une vie d'obéissance à la loi de Dieu, à son Créateur. Au chapitre 3, Jacques, apôtre, explique comment mettre en pratique ces fameuses bonnes œuvres, ces bonnes actions utiles, tout en ayant, est-il précisé, une bonne attitude. Donc, il est important de faire des bonnes œuvres, mais nous voulons les faire avec un cœur fidèle, propre, sans mauvaises intentions. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» écrit-il au chapitre 3, verset 13, Jacques 3, 13. « Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, dit-il, avec la douceur de la sagesse. » Avec la douceur de la sagesse. Donc, pratiquer de bonnes œuvres au bénéfice de ceux qui en ont besoin, évidemment, cela doit se faire dans une relative discrétion. Nous n'allons pas commencer à sonner de la trompette « Regardez, j'ai fait une bonne œuvre ». Au contraire, nous devons agir avec une discrétion la plus totale. Pourquoi? Eh bien, parce que nous ne voulons pas être soupçonnés de vouloir faire cela pour les mauvaises motivations, évidemment. Ensuite, avec sagesse, dès que nous en avons l'occasion, essayons de savoir ce dont la personne a besoin. De quoi a-t-elle besoin? Et là, nous pouvons commencer à savoir ce que nous allons pouvoir faire. Nous pouvons poser des questions discrètes. Nous ne sommes pas là pour submerger la personne qui a des besoins avec toutes sortes de choses dont elle n'aurait pas besoin ou elle ne veut surtout pas que les autres le sachent. Eh bien, nous pourrions par exemple dire « Voilà ce que je pourrais faire, qu'est-ce que vous en pensez ?» Dans une conversation seul à seul. Mettons-nous à la place de la personne dès que nous comprenons dans quelle situation elle se trouve. Préservons toujours son honneur, préservons sa dignité et préservons les aspects privés de sa vie. Peut-être n'a-t-elle pas envie que tout le monde sache que vous lui venez en aide. Agissons avec sagesse, agissons avec précaution et avec prudence. C'est pourquoi, pour vivre par la foi, nous devons précisément éviter le piège de l'orgueil, de la fierté mal placée. Il est dit dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 4, et je voudrais lire dans la version de l'Ancien Testament selon Samuel Cahen, « Voici l'orgueil, son âme ne se tranquillise pas en lui, et le juste se soutient par sa confiance. » Le juste se soutient par sa confiance. Donc l'opposition entre l'orgueil et la foi. La nouvelle édition de Genève traduit la seconde partie de cette façon. « Mais le juste vivra par sa foi. » Et ça, c'est quelque chose que nous allons retrouver en d'autres endroits dans le Nouveau Testament. Donc nous voyons ici l'orgueil et la foi en opposition directe. L'orgueil est à l'origine de nombreux péchés, nous le savons. Et dans la Bible tout entière, Dieu associe précisément l'orgueil à toutes sortes d'actes égocentriques, égoïstes. Les jalousies, la cupidité, la haine de la vérité, la haine du dialogue et de la fraternité, ce qui mène à des disputes injustes, à la révolte, à la violence, et à beaucoup d'autres problèmes et d'autres vices encore. Tous ces actes s'opposent à une humble confiance, une humble obéissance aux instructions de Dieu. Là, c'est une zone de sécurité, c'est une zone sûre où nous n'avons rien à craindre. La bonne nouvelle, c'est que dans la Nouvelle Alliance, maintenant, tout ce qui était promis aux Israélites est maintenant étendu à toute l'humanité. Des personnes de tous horizons peuvent maintenant participer à la justice de Dieu. L'apôtre Paul l'explique dans sa lettre aux Romains, chapitre 1, verset 16 et suivant. Romains 1, 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, écrit-il, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. » Et nous voyons cette référence tirée de l'Ancien Testament. Autrement dit, les oracles de Dieu ont été confiés à Moïse, aux Israélites, puis après aux Juifs. Mais dans la Nouvelle Alliance, ils sont partagés avec les Grecs, c'est-à-dire les non-Juifs. Donc tout le reste de l'humanité, en d'autres termes. Paul apôtre répète à nouveau cette déclaration, « Le juste vivra par la foi » dans sa lettre aux Galates, chapitre 3, verset 11, pour souligner que seul le sacrifice de Jésus-Christ peut nous justifier. Alors, comment pouvons-nous expliquer cela? Comment pouvons-nous expliquer l'amende du péché et l'effacement de l'amende du péché? Prenons un exemple simple dans la vie courante. Imaginons que je sois arrêté par un gendarme qui m'arrête sur le bord de la route, et tout simplement parce qu'il m'a vu utiliser mon téléphone dans la voiture. À coup sûr, si cette chose arrive, il me dressera une contravention. Une contravention assortie, bien entendu, d'une amende à payer. C'est la loi, nous le savons. Et dans la conversation, eh bien, je peux lui promettre que dorénavant, je ne ferai plus ces choses. Cela ne va pas annuler la condamnation, en quelque sorte, l'amende qui doit être payée et que je dois régler. En l'occurrence, ce sera moi. Eh bien, quand il s'agit de nos péchés du passé, c'est-à-dire d'une transgression de la loi de Dieu, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Notre obéissance présente et future à la loi de Dieu ne pourra jamais, jamais racheter ou effacer nos péchés et nous offrir un nouveau départ propre. Il faut autre chose. Et cette autre chose, évidemment, c'est la seule chose qui est nécessaire et qui est suffisante, en fait, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Lui seul peut nous justifier totalement. Et c'est la raison pour laquelle il nous est dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Donc la foi de Jésus-Christ, c'est le don de Dieu. Pour autant, et avec ce nouveau départ, cette table rase, nous ne pouvons pas nous permettre, évidemment, de retourner au péché. Même si la grâce abonde, si la grâce est là pour tout payer, tel qu'il nous l'a dit. Oui, nous sommes encore pécheurs, nous sommes encore faibles, il peut nous arriver de trébucher, il nous arrivera de trébucher, de nous tromper, de mal agir, mais nous luttons contre ces choses, nous luttons contre ces tendances qui nous sont décrites, afin d'obéir de mieux en mieux. C'est toute la logique parfaitement compréhensible de la vraie théologie chrétienne. et de la vérité. La loi n'a pas été abolie. Elle n'est pas abolie. Jésus nous le dit. Dieu ne veut surtout pas que nous retournions à un mode de vie pécheur. Je dis bien un mode de vie pécheur qui ignore le péché. Ainsi, vivre par la foi signifie aussi persévérer continuellement, fidèlement, jusqu'à la fin, dans l'obéissance à Dieu. La foi nous permet de voir justement la fidélité de Dieu. Il nous promet qu'il nous pardonnera, qu'il appliquera le sang du sacrifice précieux de son Fils Jésus-Christ, le sang précieux du sacrifice de Jésus, qui nous lave de chaque nouveau péché que nous pourrions commettre, et dont, bien entendu, nous pourrions le commettre par mégarde, par faiblesse, mais à condition que nous voulions nous en repentir, à condition que nous voulions changer de conduite et noter cela et prendre les dispositions pour ne plus recommencer autant que nous pouvons le faire. C'est pourquoi la foi nous motive à devenir fidèles, à devenir obéissants de plus en plus et de mieux en mieux. Vivre par la foi signifie s'efforcer de vivre comme Jésus-Christ a vécu, avec diligence, comme le dit l'apôtre Jean, qui écrit dans sa première lettre, chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il, Jésus, a marché lui-même. » Et au chapitre 5, verset 3, 1 Jean 5, 3, il écrit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Ses commandements ne sont pas pénibles. Alors, j'espère de tout cœur, évidemment, que nous n'avons pas cette pensée vraiment effrayante de vouloir abandonner notre cheminement chrétien. Après avoir combattu pendant tant d'années contre le péché, évidemment, ce serait glaçant, ce serait terrible, mais nous voulons persévérer, nous voulons persévérer. Donc, continuons de le faire. Dans Hébreux chapitre 10, verset 39, il nous est dit, bien au contraire, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous persévérons, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. De ceux qui croient pour sauver leur âme. Donc là, l'existence de la foi vivante, c'est là. Cela nous permet de croire que Dieu ne nous abandonnera jamais. Car si nous nous coupions volontairement de Dieu, nous n'aurions plus d'espoir. Dieu, lui, nous promet de ne pas nous abandonner. Et il ne nous abandonnera jamais. Alors, pour résumer ce propos sur la foi vivante dont nous avons besoin, nos instructions sont claires. Il n'y a pas de mystère. Rien n'est caché. Et ces instructions ne sont pas difficiles à comprendre. J'aimerais les résumer en développant rapidement 6 points, en explicitant 6 points. Premièrement, il nous faut, nous l'avons vu, vivre comme Jésus-Christ a vécu. Il est là, nous devons, cet exemple dans la parole de Dieu, nous devons marcher comme il a marché. Deuxièmement, nous devons obéir aux lois divines, aux 10 commandements. C'est ainsi que nous marcherons comme Jésus-Christ a marché. Troisièmement, nous devons évidemment prendre soin de nos familles, de nos proches, de nos bien-aimés, et aussi des membres de nos frères et sœurs dans l'Église, et d'autres personnes encore, bien entendu, dans le besoin. Quatrièmement, nous devons avoir confiance en Dieu dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Dieu est là, il ne nous abandonne pas, nous pouvons avoir accès à son secours. Cinquièmement, il nous faut aussi résister à Satan. Résister à Satan, il nous faut fuir, alors lui fuira loin de nous si nous lui résistons. Résistons à Satan, demandons le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du diable et également demandons à être délivrés du mal, comme Jésus-Christ nous l'a enseigné. Et enfin, sixièmement, persévérer jusqu'à la fin et recevoir enfin la récompense, le don gratuit de la vie éternelle. Voilà notre feuille de route. Et il y aurait encore beaucoup à dire sur la foi vivante. Mais voyons plutôt maintenant quelques exemples, quelques aspects de notre vie de tous les jours. Et notamment, que faire en période d'incertitude. Ces choses peuvent arriver. Donc, prenons quelques exemples. Vous savez, notre vie, c'est souvent un long fleuve tranquille, mais parfois, notre vie peut prendre un cours différent. Tout d'un coup, des rapides apparaissent, des écueils, des flots agités sur cette rivière. Un événement inattendu, un événement inquiétant survient. Toutes sortes d'exemples peuvent nous venir à l'esprit. Mettons qu'un examen médical nous révèle quelque chose de mauvais, ou notre employeur annonce des licenciements, ou bien la personne que nous fréquentions, tout d'un coup, nous dit qu'elle reconsidère la relation que nous avions commencée parce que, eh bien, elle pense que les choses, dit-elle, deviennent compliquées. Que se passe-t-il ? L'anxiété nous saisit, l'angoisse commence à prendre naissance en nous, et même, parfois même, nous pouvons avoir l'impression d'être vidés de l'intérieur, d'être devenus comme un petit sac en papier, et qu'il n'y a plus rien, tout est brisé dedans. Notre instinct de survie prend le dessus et nous pousse naturellement à chercher des solutions possibles. Nous voulons nous en tirer, nous voulons nous sentir moins perdus, nous voulons nous sentir plus en contrôle de la situation qui semble nous échapper. Tout naturellement, nous cherchons à en savoir un peu plus sur ce qui va se passer ensuite. Et c'est là que nous pouvons commencer à construire la foi. Nous ruminons ces choses sur le passé, ce n'est pas une bonne chose, nous devrions nous porter plutôt, aller de l'avant, nous porter vers l'avenir. Ah, si j'avais su, j'aurais dû m'y prendre de telle ou telle façon. Cela ne va pas changer beaucoup de choses, ce qu'il nous faut maintenant, c'est savoir ce que nous devons faire et nous y tenir. Bien sûr, nous recherchons la clarté dans nos pensées, dans tout cela. Nous essayons de calmer nos angoisses, nos anxiétés. Nous passons du temps à parler à Dieu, de nos soucis, de notre avenir. Espérons que nous le faisons. Et peut-être nous pensons que si Dieu nous offrait un signe, quelque chose, une certitude, une révélation, alors nous pourrions affronter nos problèmes de front. Enfin, nos craintes et nos incertitudes finiraient par se dissiper. Prenez l'exemple de Moïse. Quand Moïse parlait à Dieu devant le buisson ardent, Dieu lui a montré des choses. Il lui a montré personnellement des détails sur sa mission, sur l'avenir d'Israël. Et Dieu a exposé à Moïse un plan, étape par étape, de ce qu'il allait accomplir par son intermédiaire, lui, Moïse. Et pour renforcer son assurance, Dieu va même accomplir sur place un certain nombre de miracles pour aider Moïse, pour raffermir sa confiance. Dieu connaissait le cœur de Moïse. Il savait que la mission allait déclencher en lui une profonde anxiété. Et malgré tous les signes prometteurs de réconfort, Moïse essaye de trouver des excuses. Il essaye de renoncer à la mission qui lui est confiée. Il supplie Dieu, par exemple, d'envoyer une autre personne, quelqu'un d'autre à sa place. Vous voyez, la foi ne se construit pas sur la certitude présente, une certitude parfaite de tout ce qui va se passer entre-temps. La foi, c'est précisément cette certitude. Donc, elle ne peut pas se construire sur la base de ce qu'elle va devenir. Cette assurance, c'est, et cette démonstration des choses qu'on ne voit pas. Certes, nous le savons. Mais la foi ne peut donc pas se forger au départ, sur le terrain de la certitude. Elle doit donc se construire dans un climat d'incertitude, au contraire. En route vers la terre promise, pour finalement y recevoir leur héritage, les Israélites avaient quitté l'Égypte au milieu, rappelez-vous, de miracles absolument stupéfiants, la séparation de la mer Rouge, la présence de Dieu dans la colonne de feu, la nuit, et dans la colonne de nuée, le jour. Dieu restait extrêmement actif pour les réconforter, pour les rassurer. Eh bien, il a suffi d'un simple rapport alarmant de certains espions controversés pour littéralement semer la panique parmi le peuple. Mais le peuple d'Israël n'a pas été le seul à ressentir au cours de sa vie une profonde anxiété en période d'incertitude. Évidemment, dans le Nouveau Testament, les disciples ont subi en quelque sorte les mêmes conditions, des conditions similaires, où tout d'un coup l'épreuve surgit. Des prophètes de l'Ancien Testament, eux aussi, ont reçu, tout comme nous aujourd'hui, des leçons de foi. Dans les évangiles, Jésus nous appelle à continuer à exercer la foi. Il ne nous dit pas de prier pour obtenir des signes de certitude, là, tout de suite, maintenant, que Dieu va nous donner. Non. Nous ne connaissons pas les détails. Il y a des détails que nous voudrions connaître sur notre avenir. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne savons pas quand nous allons être délivrés de telle ou de telle épreuve, comment les choses vont se passer. Christ dit même qu'une petite quantité de foi peut déplacer des montagnes. Il félicite aussi ceux qui font preuve d'une foi admirable, ou au contraire, il réprimande ses disciples parfois pour leur manque de foi. Et Christ pose la question. Il dit « Trouvera-t-il la foi sur terre à son retour ?» Alors, c'est une question évidemment rhétorique, elle ne demande pas nécessairement de réponse en soi, mais elle sous-entend les attentes de Jésus-Christ. Jésus-Christ désire voir la foi sur terre quand il reviendra, en la personne de son peuple, parmi son peuple, évidemment, parmi ses frères et sœurs. Nous devons donc nous efforcer aujourd'hui d'augmenter notre foi. C'est notre responsabilité. Et Jésus nous encourage, il nous exhorte à ne pas avoir peur, mais à croire au contraire. Dieu veut que nous grandissions dans la foi. Dieu veut que nous grandissions dans la foi. Alors ces héros bibliques de la foi que nous retrouvons dans Hébreux chapitre 11, c'était des êtres humains. Ils étaient comme nous. Ils sont cités en exemple, ils ont des places éternelles réservées auprès de Dieu, dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et la lettre aux Hébreux ne dit pas qu'ils ont obtenu un bon témoignage parce qu'ils avaient tout prévu. Non. Mais, ou parce qu'ils savaient tout d'avance, ou qu'ils pouvaient voir exactement ce qui allait se passer à chaque fois qu'ils traversaient une épreuve. Non, la lettre ne dit pas cela. Elle dit qu'ils ont obtenu un bon témoignage par la foi. Par la foi. Par ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Cette assurance, eh bien, elle s'est construite en eux par les soins de Dieu à travers ce qu'ils ont vécu. C'est Dieu qui en a pris soin à travers tout ce qu'ils ont vécu. C'est lorsque nous ne pouvons pas voir comment une épreuve va se dérouler que nous sommes poussés à faire confiance à Dieu. Nous n'avons pas d'autre extrémité. Qui voit tout ? Dieu voit tout, il entend tout, il sait ce qui se passe, il prend soin de chacun d'entre nous. Pensez aux trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient décidé de faire, ils savaient que Dieu pouvait les délivrer, mais ils étaient déterminés quoi qu'il arrive, à obéir à Dieu plutôt qu'au roi Nebuchadnezzar. Et même s'ils devaient mourir, ils étaient prêts à mourir s'ils n'étaient pas délivrés. Au cours de notre vie, nous n'aurons peut-être pas à traverser des preuves aussi intenses dans leur description, mais nous aurons des épreuves d'une certaine sorte, des tests, et nous aurons l'occasion de développer la foi. Ces épreuves, effectivement, développent notre foi. L'apôtre Pierre écrit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Il le dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 6. 1 Pierre 1, 6. « Afin, dit-il, que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Soyons clairs, l'importance de la foi qui vient de Jésus ne nous donne pas la licence, encore une fois, d'attendre les bras croisés. Non, nous vivons dans un monde qui nous invite plutôt, c'est vrai, à laisser faire, à laisser passer les choses, à laisser dire et ensuite laisser Dieu agir. Oui, comme si nous n'étions pas partie prenante dans l'opération. Alors, au contraire, nous avons une responsabilité en tant que chrétiens. Dieu seul, il est vrai, peut apporter la délivrance dans certaines situations, mais il nous faut aussi prier de tout notre cœur. Nous devons résister à l'envie de laisser nos pensées vagabonder ou devenir anxieuses. Nous devons faire confiance en Dieu. En pratique, nous recherchons dans la Bible les promesses divines, les récits qui mettent en lumière la fidélité de Dieu. C'est ce que veut dire l'apôtre Paul quand il écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dans Genèse chapitre 32, nous lisons aussi l'histoire de Jacob. À quel point les menaces de son frère Ésaü étaient vivaces, elles commençaient à produire en Jacob des inquiétudes, une profonde anxiété. La Bible nous dit même que Jacob fut très effrayé et qu'il était saisi d'angoisse à l'idée de rencontrer son frère Ésaü qui voulait le tuer. Mais remarquez ce qui se passe. Jacob fait confiance en Dieu. Il va faire preuve de foi, il va prier Dieu. Il lui dit ceci, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, avec la mère et avec les enfants. » Donc il avait peur pour lui, il avait peur pour son épouse, il avait peur pour ses enfants. « Et toi, tu as dit, » il continue en disant, « Et toi, Dieu, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » Donc Jacob rappelle à Dieu ses promesses qu'il a gardées dans son cœur. Jacob s'est accroché aux promesses de Dieu que Dieu lui avait faites. Il était déterminé. Il était confiant, quand bien même tout semblait incertain, quand bien même l'anxiété et l'angoisse se faisaient jour en lui. Jacob avait une foi vivante, une foi active. Dieu a exaucé la prière de Jacob. Effectivement, au moment crucial, il n'y a pas eu de confrontation violente avec Ésaü. Bien au contraire, il y a eu l'amitié retrouvée, aussi incroyable que cela puisse paraître. Quelle est la leçon importante ici? Si Jacob avait pu tout prévoir à l'avance, et s'il avait pu voir une vision certaine, claire, comme de l'eau de roche, quelle foi aurait-il pu réellement développer? Évidemment, aucune. Il n'aurait pu développer aucune foi. Pourquoi? Eh bien, parce que tout aurait été prévu. Il n'avait aucun effort à faire. Il n'aurait pas eu ce travail de « c'est dur, mais je vais faire confiance en Dieu ». Il n'aurait pas pu être éprouvé, au sens de l'or qui est éprouvé dans le creuset et qui est séparé de toutes les impuretés, toutes les mauvaises pensées. Dès lors, Jacob n'aurait eu nul besoin de placer effectivement sa confiance en Dieu. Il n'aurait pas eu besoin de faire un seul pas dans la foi. En conséquence, son caractère n'aurait pas pu être spirituellement perfectionné. Il n'y aurait pas eu ce perfectionnement spirituel en lui. Et c'est seulement dans l'attente, c'est seulement dans l'incertitude que la foi de Jacob a pu grandir, a pu croître. Il avait besoin de lutter. Il avait besoin de craindre Dieu et de lui faire confiance. Et nous aussi, c'est exactement les mêmes conditions, peut-être pas forcément les mêmes situations, évidemment, mais il y a des situations similaires dans lesquelles nous sommes confrontés à l'anxiété, à l'angoisse. Cela fait partie de la vie. Ce sont des épreuves que nous pouvons traverser. Et selon les uns ou les autres, eh bien, ce sont des épreuves qui peuvent être très différentes, qui peuvent affecter des sentiments différents, des situations différentes. Souvent, nous recherchons la paix d'esprit de bien des façons. Nos façons à nous, nous recherchons la tranquillité dans la nature, loin du brouhaha des affaires humaines, loin du bruit. Il n'y a rien de mal à cela, c'est très bien, au contraire. Et pourtant, c'est Dieu qui nous promet la vraie paix en nous, la vraie paix de l'esprit. Elle ne se trouve pas dans des solutions de rechange que nous pourrions trouver, des solutions physiques, qui n'impliquent pas la présence de Dieu, qui n'impliquent pas la présence de Dieu. La paix divine qui nous est offerte, c'est le résultat de la confiance en Dieu. Et Dieu est celui qui nous dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Toute chose aussi, dit-il, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ainsi, frères et sœurs, qu'il nous faut continuer de bâtir cette foi inestimable, la foi de Jésus en nous. Quand on parle de vertu, je crois que peut-être la première qui nous vient, un homme vertueux, une femme vertueuse, peut-être la première vertu qui nous vient à l'esprit, peut-être, c'est celle du courage. De tout temps, de toutes époques, un homme vertueux, c'était un homme courageux, voire un brave, quelqu'un qui avait de la bravoure. Alors, quand on pense à des exemples historiques de bravoure, on pense peut-être à un héros, un chef militaire, un grand soldat, par exemple à celui qu'on appelait le brave des braves, Michel Ney, maréchal de France. Ou, plus discrètement, on peut penser à un espion, un agent de renseignement qui agit sous couverture. Un exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Rudolf Rössler était un Allemand. Il était anti-nazi, réfugié en Suisse, réfugié politique, avant même le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et il a patiemment transmis aux agents alliés, français, anglais, soviétiques, des détails, des plans précis des armées allemandes sur le front russe. Alors au début, personne ne le croyait, évidemment. Dès 1935, il l'a fait. Grâce à ses contacts secrets, donc au quartier général allemand à Berlin. Mais beaucoup plus proche de nous, il y a aussi des exemples formidables de courage. Le pompier qui entre dans un bâtiment en feu, il est phénoménalement, malgré sa tenue de protection, il est extrêmement courageux, il y a des victimes parmi les pompiers. Il risque sa vie, même s'il il a appris à appréhender tous les dangers qui pourraient se présenter. Il peut y avoir des imprévus. Ou prenons l'exemple plus calme d'une mère célibataire, mais tout aussi sujette à la peur, à l'anxiété, à l'angoisse que les autres, et elle doit s'occuper seule, cette mère célibataire, de ses enfants, elle doit pourvoir à leurs besoins. Elle n'a pas la présence d'un mari qui serait d'un précieux secours. Eh bien, cette femme est extrêmement courageuse quand on considère tous les défis auxquels elle va devoir répondre dans des sociétés qui, elles-mêmes, sont à bout de souffle et qui assistent de moins en moins ceux qui se retrouvent dans la détresse. Cette femme fait preuve dans la discrétion et dans la dignité d'un très grand courage. Qu'en est-il du chrétien ? Qu'en est-il de nos frères et sœurs du Rwanda qui ont très courageusement décidé de continuer d'observer les fêtes de Dieu, la fête des tabernacles, malgré la fermeture du bâtiment de l'église près de Kigali, malgré les difficultés dressées par les forces de l'ordre ougandaise cette année, de l'autre côté de la frontière, en dépit du droit international. Ils font preuve, nos membres, d'un courage et d'une détermination qui soulève littéralement notre admiration. Et qu'en est-il plus généralement du frère ou de la sœur en Christ que vous connaissez bien, qui peut-être est vous-même, et qui renonce à un emploi plutôt que d'accepter un compromis où il travaillerait ou elle travaillerait quelques heures, ne serait-ce que quelques heures, pendant le jour du sabbat? Eh bien, il est courageux, elle est courageuse, et ils placent leur confiance en Dieu. Nous lisons d'autres exemples bibliques de courage du peuple de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Telle est l'admonition donnée par Dieu à Josué, qui était chargé de mener le peuple d'Israël dans la terre promise après avoir passé le Jourdain. Mais il fallait encore affronter les Cananéens. Comment Josué a-t-il vécu tout cela? Lui-même, Josué, a également galvanisé ses troupes, ses guerriers, de la même façon. Dans Josué chapitre 10, verset 25, il est écrit « Josué leur dit, ne craignez point, ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage », les mêmes mots. « Car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Donc, Josué mentionnait l'intervention de Dieu à l'avance. L'exemple du prophète Daniel nous revient bien sûr en mémoire dans le livre de Daniel au chapitre 6. Rappelez-vous, le roi de Perse l'avait couvert de faveur en raison de son mérite, en raison de son comportement admirable, et Dieu avait donc béni la vie de Daniel. Tout cela avait provoqué, bien entendu, la jalousie, une jalousie mal placée de la part de ses ennemis. Et donc, ces hommes ont décidé de conspirer contre lui. Ils se sont arrangés pour qu'un décret soit signé par le roi interdisant les prières adressées à Dieu, au Dieu des cieux, au Dieu créateur, sous peine d'être jeté dans une fosse aux lions. Et Daniel priait tous les jours. Daniel agissait avec beaucoup de courage. Il continua donc de prier comme il en avait l'habitude, avec audace, les fenêtres ouvertes au vu et au su de ses ennemis. Il savait bien sûr qu'il serait arrêté pour avoir fait cela. Ses ennemis avaient carrément planifié sa mort. Mais Daniel comptait sur Dieu. Et Dieu a empêché miraculeusement les lions de s'en prendre à Daniel. Et un autre miracle encore, lorsque les ennemis ont été précipités à leur tour, une fois le complot découvert, dans la fosse aux lions, eh bien avant même d'avoir atteint le fond de la fosse, les lions se sont emparés d'eux et les ont déchirés. Une réalité absolument frappante, et tout cela au milieu du courage phénoménal et de la foi démontrée par Daniel. Dans le Nouveau Testament, et après la crucifixion de Jésus, nous voyons un autre exemple de courage dans Marc chapitre 15, verset 42. Marc 15, 42, Joseph d'Arimathée était un conseiller respecté. Eh bien, il ose se rendre auprès du procurateur romain Ponce Pilate pour réclamer le corps de Jésus. Il prend des risques incroyables. Il était en danger parce qu'il se montrait un proche de Jésus qui venait d'être exécuté. Et cela au vu et au su de ses conseillers, de la foule, des gens. La nouvelle allait se répandre. Mais qui est-il? Il est l'un d'eux. Pourtant, Joseph a joint le geste à la parole. Il a fait les œuvres, il a fait ce qu'il devait faire. Après la fondation de l'Église du Nouveau Testament, nous voyons que l'apôtre Pierre et les disciples ont vu leur foi, leur courage multiplié après tout ce qu'ils avaient traversé, sous l'influence du Saint-Esprit. Et leur prédication de la bonne nouvelle du royaume leur avait valu d'être arrêtés, d'être jetés en prison. Et une fois libérés miraculeusement, eh bien, ils recommencent à prêcher conformément aux instructions de notre Seigneur Jésus. Conduit à nouveau devant le Sanhédrin, devant le tribunal, Pierre n'y va pas par quatre chemins. Il leur dit sans embâge, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est admirable. Et puis, en conséquence, eh bien, ils sont battus. À nouveau, ils sont outragés. Mais notez ceci, ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. C'est formidable. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quelle démonstration active de foi! Quelle démonstration de courage! L'apôtre Paul, qui pourtant avait persécuté l'Église dans le passé, rappelez-vous, l'apôtre Paul était devenu un tout autre homme. Nous le savons, un homme rempli de foi, de la foi de Jésus en lui. Et dans Actes chapitre 14, verset 19, malgré la foule à Lystre, la foule qui est décidée à le lapider, poussée par des gens mal intentionnés, des juifs mal intentionnés, Paul survit à la lapidation. Il a été lapidé, littéralement. On l'a traîné, hors de la ville, pensant qu'il était mort. On se demande dans quel état il était. Rendez-vous compte, il était probablement inconscient. Eh bien, ses amis le retrouvent un instant plus tard, et voilà que, miraculeusement, il se relève, et il rentre à nouveau dans la ville, sans la moindre crainte. Mais il en fallait du courage. Et vous voyez, tous ces miracles arrivent au bon moment, et quand il le faut. Notre Seigneur Jésus n'abandonne jamais son peuple, ses frères et ses sœurs. Quand les dangers surgissent, quand les policiers s'avancent pour procéder à des arrestations, à des interrogatoires, ceux d'entre nous qui ont subi ces moments de persécution peuvent en parler. Ils ont vécu ces choses. Ils sont restés prudents, ils sont restés attentifs, ils ont été forts, ils ont été courageux. Alors bien sûr, lorsque nous-mêmes nous sommes confrontés à des difficultés, à des circonstances dangereuses, nous devons faire ce que nous pouvons, bien sûr, pour améliorer notre situation. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Lorsque quelqu'un est très en colère contre nous, lorsque quelqu'un monte le ton et exprime sa frustration à quelques centimètres de notre visage ou même d'une façon tout simplement ordinaire, nous devons faire attention. Et nous devons faire attention à la manière dont nous répondons. Nos réponses sont importantes. Leur contenu, le calme que nous pouvons afficher, notre détermination aussi. Restons respectueux. D'autres situations ordinaires de la vie courante peuvent aussi nous inquiéter, peuvent nous faire chanceler, les factures qui s'accumulent, notre compte qui diminue. Nous en venons à manquer d'argent, peut-être. Nous devons faire attention désormais à la façon de dépenser ce qui nous reste, à dépenser ce que nous avons. Lorsque nous nous retrouvons sans travail, au chômage, comment allons-nous faire? Nous devons assidûment rechercher, bien sûr, dans la mesure où nous le pouvons, un nouvel emploi. Dans tous ces exemples, nous savons que nous pouvons compter sur Dieu pour nous aider à sortir de nos difficultés. Dieu nous a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Et nous avons vu son secours déjà dans nos vies à de multiples reprises. Le prophète Ésaïe a écrit les pensées de Dieu dans de telles occasions au chapitre 41, verset 10. Ésaïe 41, 10, voici ce que nous lisons. « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » La promesse de Dieu, aussi simple soit-elle, elle est d'une valeur inestimable. Car nous sommes des humains. Nous sommes des humains faibles. Dieu comprend nos peurs, il comprend nos faiblesses. Il nous demande d'avoir foi en lui, d'avoir confiance en lui. Il nous fortifiera et il nous aidera. Et si le courage vient à manquer dans une situation mauvaise ou dangereuse, que pouvons-nous faire? Oui, le courage humain, c'est admirable. C'est une qualité essentielle, c'est une qualité souhaitable, mais il existe cette vertu bien supérieure au courage humain. C'est la foi, c'est la confiance en Dieu, car Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Vous voyez nos problèmes, nos difficultés, Dieu en est tout à fait conscient. Il sait que nous les avons, et pour une raison, il veut entendre nos réactions à ce sujet. Comment réagissons-nous à cette situation dans laquelle nous sommes plongés? Eh bien, en demandant de l'aide à Dieu, nous pourrons croître dans la foi, nous pourrons devenir vraiment forts et vraiment courageux. Il y a des moments où on ne peut plus rien faire de plus. On a fait tout ce que nous pouvions. Tout ce que nous pouvions faire. Le roi Ézéchias en était arrivé à ce moment-là. À ce point-là. Rappelez-vous, il était assiégé dans Jérusalem par toute l'armée assyrienne du roi Sanchérib, enfermé dans la ville. Ézéchias dépendait entièrement de Dieu, et Ézéchias et tout le peuple de Juda. Sanchérib avait remporté tellement de victoires qu'il pensait une fois de plus être le plus fort, un orgueil, un sentiment littéralement d'assurance humaine. Il avait confiance en lui. Il pensait que personne ne pouvait lui résister. Mais cette fois-là, c'était compté sans la puissance incommensurable du Dieu de l'univers qui, cette fois, protégeait Israël. Une puissance que Sanchérib, bien sûr, ne pouvait ni combattre, ni affronter, ni même comprendre. Ézéchias a prié Dieu. Et en réponse à cette prière, Dieu, en une seule nuit, a détruit les 185 000 soldats, guerriers, de l'essentiel de l'armée de Sanchérib. Et voilà que ces dizaines de milliers d'hommes jonchaient le champ de bataille tout autour de Jérusalem. L'armée assyrienne était anéantie. Et les faibles débris restants ont donc été dispersés dans la déroute qui s'ensuivit, la plus totale. Sanchérib rentra dans son pays et quelques années plus tard, il fut assassiné par deux de ses fils. Donc là, nous voyons la victoire totale d'Ézéchias qui a sauvé son peuple par sa foi en Dieu. Et son action la plus importante dans toute cette affaire, n'était pas évidemment tout ce qu'il a fait physiquement pour préparer la capitale au siège, les travaux de fortification des murailles, la sécurisation logistique de sa source d'eau qui est célèbre et que l'on peut encore visiter de nos jours. Ce n'était pas non plus l'organisation militaire de la garnison de Jérusalem pour peut-être tenter une sortie, rompre le siège. Non. Rien de tous ces préparatifs ne saurait être comparé à la prière d'Ézéchias, à sa totale dépendance vis-à-vis de Dieu pour la victoire. Ézéchias avait compris, il avait admis en son fort intérieur que Dieu est bien plus puissant que l'homme. Il est bien plus puissant que toutes les armées de la terre. Dieu a fait en une seule nuit ce qu'aucune puissance n'aurait pu faire en 20 ans de guerre. Toutes les nations, comparées à Dieu, même avec toute leur puissance, aujourd'hui, puissance nucléaire, toute leur splendeur ne représente que si peu de choses. Dieu les compare aux gouttes d'un seau, aux gouttes d'eau dans un seau. C'est peu de choses par rapport à la puissance de Dieu. Eh bien, nous-mêmes, nous pouvons vivre des moments particulièrement difficiles dans nos vies, à notre humble échelle. Quand tout semble perdu, quand tout espoir paraît s'évanouir, nous pouvons en venir à rester prostrés, réduits dans un état où nous pourrions nous dire, à l'instar de Job, que tout devient terne, tout devient sans intérêt. Quand tout va bien, quand nous nageons dans le bonheur au milieu des bénédictions de Dieu, comme il est facile de se sentir à l'aise ou peut-être même de s'étonner avec peut-être un soupçon de condescendance de l'état dans lequel d'autres se retrouvent parce que, soi-disant, leur vie n'aurait pas été bénie. Faisons preuve de prudence avec de tels propos, avec ce genre de sentiments. C'est lorsque nous-mêmes, nous traversons ce genre de situation, que d'ailleurs personne ne souhaite pour d'autres, bien entendu, que nous comprenons mieux la vie de certains de nos frères et sœurs. Quand tout va bien, quand nous nageons dans le bonheur, au milieu des bénédictions de Dieu, n'oublions pas que Dieu est la vraie source de tout le bien que nous possédons. Tournons-nous vers lui chaque jour, afin de garder présent à l'esprit que nous ne sommes pas dignes de tout ce que nous possédons. Nous sommes si fragiles. Nous sommes si peu de choses, nous sommes impuissants, nous sommes dépendants de notre Créateur. Tournons-nous vers Dieu chaque jour afin de ne pas devenir complaisants avec nous-mêmes. En tant que chrétiens, oui, nous dépendons de Dieu. C'est pourquoi nous recherchons son conseil. Nous le consultons avant de prendre des décisions importantes. Nous recherchons, comme Jésus l'a fait, la volonté de notre Père Céleste. Dieu est notre Créateur, il est la source de toutes nos bénédictions. N'oublions pas dans nos prières de le remercier, c'est important, c'est capital. N'oublions pas de le louer pour tous ses bienfaits et de compter sur lui chaque jour en recherchant, en demandant et en obtenant de lui, en nous, la foi de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.